On y va, ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter aujourd'hui, mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée et je serai transformé. Je ne resterai plus jamais la même personne parce que cette parole est une semence incorruptible de vie et mon cœur à moi est une terre fertile. Je produirai des témoignages au centuple dans un rythme d'accélération divine. Je le crois, ainsi je le déclare au nom de Jésus-Christ qui veut la plus grande bénédiction, qu'il donne le plus grand Amen. Dieu vous bénisse. Hébreux chapitre 7, verset, à partir du verset 11, que nous avons lu le vendredi jusqu'à 12, mais nous allons ajouter 13, 14, jusqu'au 19e verset. Nous ouvrons nos Bibles, ce qui est à nous. Hébreux chapitre 7, nous commençons à partir du verset 11 et nous nous arrêtons au 19e verset.
Nous lisons au nom de Jésus. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron?
Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement des lois.
En effet, c'est lui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek.
Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Qui me donne un grand Amen. Depuis le dimanche, je suis en train de parler, toujours l'ordre de Melchisédek, je ne sais pas, nous sommes au quantième, dans cette série, le quantième message, peut-être 59 ou 58e message de l'ordre de Melchisédek. Le dimanche passé, je parlais de ce verset de Colossiens qui dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rémission et la rédemption. Et j'étais en train de souligner le fait qu'au commencement, Dieu a créé un homme et une femme. Venez encore. Excusez-moi. C'est Adam et c'est Ève. Et Dieu leur demande de manger tous les fruits des arbres du jardin, sauf un seul. Et il a pris soin de les placer au milieu du jardin, afin qu'il n'y ait pas confusion. Mais lorsque les tentateurs arrivent et tentent la femme en lui proposant que Dieu a menti parce qu'il savait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme semblable à lui. La femme ayant cédé, elle a convaincu son mari et ils ont donc désobéi à Dieu. Cela veut dire qu'ils ont eu plus de foi, pas même plus, ils ont eu la foi à la parole du diable. Et ils ont refusé de croire à ce que Dieu a dit. Ils ont été déchus. Ils sont devenus des pécheurs. Ils ont été créés à l'image de Dieu et ils ont chuté pour atteindre le niveau animal parce que Dieu avait prévenu le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et comment est-ce qu'ils sont morts? Spirituellement, leur esprit a été éteint. C'est cela l'image et la ressemblance de Dieu. Et ils sont restés âme et corps, et ce n'est pas différent d'un animal. C'est pourquoi on parle de l'homme animal. Et ils ont commencé à avoir des enfants et tout s'est rangé jusqu'au fond, ce sont leurs enfants. Et chaque enfant qui naissait héritait automatiquement la nature de ses parents, le péché. On n'avait pas besoin d'attendre qu'ils commettent ou qu'ils commencent à penser en bien ou en mal pour définir. Dès qu'ils naissent de ces couples, et tous nous sommes ici d'un même sang, nous sommes ici de ces couples. Cela veut dire que vous ne pouvez pas avoir de complexe d'infériorité en quoi que ce soit. Tous les humains sont issus d'un seul sang. Et Dieu l'a voulu ainsi, afin que cette valeur de l'égalité de tous les hommes soit confirmée. Que quelqu'un ne dit pas que moi, mon père a été plus grand que lui, que son père, et que moi je suis supérieur. Non, tous ici d'un même père et d'une même mère, toute la race humaine. Mais je disais, en naissant, ils héritaient la nature du péché. Et cette nature étant née, ils n'avaient pas de choix que de produire des fruits qu'on appelle péché, c'est-à-dire mensonge, convoitise, vol, meurtre, ainsi de suite. Et Dieu, dans son amour, a prévu un plan de rédemption. Et de cette lignée, de cette race des hommes, est sorti le Messie qui est venu sauver l'humanité du péché. Mais le mardi, j'ai évolué, et pour tous ceux qui n'étaient pas là le mardi, j'ai dit ceci: Adam et Ève ont des enfants, et ces enfants héritent le péché, la nature du péché. Retenez qu'ils ne sont pas pécheurs à cause de ce qu'ils font, mais ils sont pécheurs à cause de la nature qu'ils ont héritée. Quand bien même ils ne commettraient aucun acte qui soit injuste, inique ou souillé, ils seraient de pécheurs parce qu'ils l'ont reçu par héritage. Mais le mardi, j'ai dit, Dieu vient dans cette lignée, dans cette race des hommes, et Dieu s'est choisi un homme. Le dimanche, j'ai dit qu'il s'est choisi un homme. Le dimanche, j'ai dit que Dieu est venu s'incarner dans cette race. Mais le mardi, j'ai changé ou j'ai évolué en disant, Dieu s'est choisi un homme de cette lignée qui s'appelle Abraham. Et Dieu dit, toi tu sortiras de la maison de ton père, tu sortiras de la manière des gens de faire, Dieu les retire de la lignée des hommes et Dieu vient avec pour commencer une nouvelle race ou une nouvelle descendance. Et le mardi, j'ai dit que le Dieu de la Bible est le Dieu de commencement. Il a créé un homme, il a commencé là, le diable a gagné cela, il les a corrompus, il les a soumis à sa servitude, ou ils se sont soumis, mieux, ils se sont soumis à son autorité, mais Dieu vient recommencer encore avec un autre homme qu'il appelle Abraham. Parce que le Dieu de la Bible est le Dieu des recommencements. Que personne ne vous dise que ça n'est fini de vous, quel que soit le domaine. Qu'il soit avocat, qu'il soit médecin, qu'il soit pasteur, qu'il soit qui que ce soit, personne ne peut dire que l'état dans lequel vous êtes, tout est fini, il n'y a plus rien à recommencer. Le Dieu de la Bible est un Dieu de recommencement. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Vous vous êtes réveillé aujourd'hui, cela veut dire que Dieu veut écrire un nouveau chapitre, un nouveau livre, une nouvelle bibliothèque de votre vie. Quelqu'un qui m'entend me donne un amen. Il n'y a pas une seule situation dans laquelle vous arrivez que c'est la fin. Non. À moins qu'il vous retire le souffle de vie. La Bible dit qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cet auditoire qui est en vie? Ça n'est pas encore fini avec ce dossier du travail. Dieu te restaurera et te donnera meilleur. Ça n'est pas encore fini avec ta santé. Oh, j'étais en train de dire, ça n'est pas encore fini avec ta famille. Dieu recommencera, il le fera encore. Tape la main du voisin, dit il est un Dieu de recommencement. Dites au voisin, il est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Dites lui, j'ai des preuves. Et la preuve, c'est que je suis en vie ce matin. Il a renouvelé ses bontés dans ma vie. Ça, c'est le premier jour de la semaine. Et ce premier jour de la semaine commence avec la bénédiction que je te donne. Cette semaine ne va pas ressembler aux autres semaines de ta vie. Dieu te rencontrera. Il accomplira une chose merveilleuse dans ta vie. Qui est-ce que je t'entends? Dieu recommence avec Abraham. Et ici naît la nation d'Israël. nous mettons Ismaël de côté, Ésaü de côté. Nous prenons de Jacob les 12 fils et finalement, Dina aussi la fille, nous le mettons de côté. Et de ces 12 fils naît la nation d'Israël. Et ceux-ci sont des Juifs, c'est Israël. C'est le peuple élu, ils ont l'alliance, ils ont Dieu. Mais il est important de ne pas oublier que eux aussi, par Abraham, viennent d'Adam et Ève. Suivez-moi. Et en appelant Adam et Ève, en les sortant du milieu des hommes, Dieu n'a pas changé sa nature. Il est venu avec la nature héritée lui aussi d'Adam et Ève. Mais à ceci, Dieu, avec ceci, Dieu conclut une alliance. Et au terme de cette alliance, il leur donne une loi. Il leur donne un sacerdoce, les fêtes, les offrandes, les tabernacles et tout le reste. Mais le plus important, et ce qui me concerne, c'est la loi et les sacerdoces. Et maintenant, de cette lignée, ici, va s'incarner. Dieu va s'incarner de cette lignée. Jésus va naître. Et lui n'a rien hérité du premier Adam. Il est né de la postérité d'Abraham. Mais c'est Dieu qui s'est incarné. Et il commence donc à prêcher le message d'amour, le message de restauration. Il commence d'abord avec celle-là, le descendant d'Abraham, c'est de la nation d'Israël. Mais sa mission a deux phases. La première phase consiste à récupérer ou à faire connaître, à accomplir plutôt, l'alliance que ceux-ci depuis Moïse n'ont jamais accomplie. Et sa deuxième phase, c'est maintenant de s'occuper. Toi, tu peux t'asseoir pour qu'il n'y ait pas de confusion avec mes exemples. Merci, merci beaucoup, asseyez-vous. Et sa deuxième phase, la deuxième phase de sa mission, se consistera à s'ouvrir à ceux-là pour les sauver. Parce que sur le plan de vie de Dieu, et les juifs, et les gentils, tous sont ici d'Adam. Ils ont la nature d'Adam. Là, ils ont juste reçu la grâce d'être une race mise à part. Et le Messie arrive. Il paye le prix à la croix du calvaire. Et lorsqu'il paye le prix à la croix du calvaire, le prix qu'il paye, c'est pour les iniquités de nous tous, mettez-vous là. C'est pour le péché de tous. Aussi bien des gentils que des juifs. Il s'est chargé de nos iniquités. Nous avons cru qu'il était puni et châtié de Dieu. Oh, c'est pourtant, c'est sur nos péchés qu'il a porté. Et il est devenu péché à la croix du calvaire. Il a payé le prix qu'aucun homme ne pouvait payer. Parce que dans chaque homme qui naissait, aussi bien Abraham que ses descendants que les autres, il y avait le sang d'Adam et Ève. Ce sang a été contaminé par le péché. Et rappelez-vous un jour, Jésus dit aux Juifs que vous faites les œuvres de votre père. Et ils disent, notre père c'est Abraham. Nous n'avons pas de père qu'Abraham. Jésus dit, votre père c'est le diable. Donc au-delà d'Abraham, au-delà d'Adam, c'est le diable maintenant qui est votre père. Et il se charge, il devient péché. C'est comme ça que Dieu a l'opportunité de le tuer. J'ai dit dimanche passé, sa mort, Dieu l'a tué et le diable l'a tué. J'apporte la lumière aujourd'hui, ou la semaine, je l'ai déjà fait. Dieu l'a puni spirituellement, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu l'a tué spirituellement. Le corps que Jésus avait ne pouvait pas être blessé, ne pouvait pas être tué, parce que ce corps n'était pas fait comme nous de la terre, c'était la parole incarnée. Et maintenant, lorsque le péché est venu, il s'est chargé du péché, Dieu a tué Jésus spirituellement. Et parce qu'il est mort spirituellement, le diable a saisi son esprit pour l'amener dans la prison où il garde tous les prisonniers de la mort. C'est alors que son corps est devenu capable, pouvait être tué, mais il est devenu mortel. C'est la mort spirituelle qui a rendu son corps mortel. Et là, il arrive à payer le prix qu'exige la justice de Dieu. Il le paye aussi bien pour les juifs que pour les non-juifs. Et maintenant, son message, après qu'il ait payé le prix, ça, je n'arrêterai jamais d'insister. Après qu'il soit mort et ressuscité, le salut est devenu valable, est devenu disponible, je vous le dis. Avant sa mort et sa résurrection, le salut n'était pas disponible ni pour les juifs, ni pour les païens. Maintenant que le salut est devenu disponible, quelques jeunes gens peuvent m'aider. Et quelques jeunes gens, 5, 6, 7, pas des grandes personnes, des jeunes gens, venez, 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 filles et garçons, venez, 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 5, 6, 7, 8, venez. Allez vous aligner derrière lui. Venez, venez, jeune homme, venez, 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 venez. Allez vous aligner derrière lui. Voilà. Ceux-ci, du millier de juifs, ont entendu le message. Ils ont cru. Ils n'ont pas cru qu'il était le Messie, c'est-à-dire le Fils de Dieu, simplement, comme Pierre l'a cru dans un premier temps. Cela ne donne pas le salut. Le salut, c'est lorsque nous croyons que Jésus-Christ est Dieu incarné en chair, qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité pour nous. Lorsque nous le croyons de notre cœur et que nous le confessons de notre bouche, nous sommes sauvés. Et ici aussi, parmi ces des gentils, 5 ou 6 jeunes gens, venez également. Venez, 5, 6 jeunes gens, venez. Faites-les passer au milieu ici. Un va entrer ici, un autre va venir ici. Mélangez-vous. Voilà, un autre ici. Venez, un autre ici. Voilà, et le dernier enfin. Venez ici. Voilà. Et tous ceux qui, à tous ceux qui l'ont reçu. Parce qu'il est venu au fait chez les siens, parmi les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. Qu'ils viennent de là ou d'ici, il n'y a pas de problème parce que tous viennent d'Adam. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux-là sont nés, ni de la volonté de leurs parents, ni de la volonté du sang, de la chair, c'est ce que ça veut dire de parents, mais ils sont nés de la volonté de Dieu, ils sont nés d'esprit et d'eau. Et ils sont une nouvelle création. Je ne vais même pas parler d'une nouvelle race, d'une nouvelle espèce. Je parle d'une nouvelle création. Parce que la première création a été déchue avec Adam. Lorsqu'Adam est tombé dans le péché, les animaux, les arbres, la nature a été déchue avec Adam. C'est pourquoi la Bible dit que la création tout entière soupire. Soupire veut dire désirer avec un ardent que cela arrive. Soupire et désir en attendant qu'elle soit elle aussi affranchie parce que l'homme l'a soumis dans la vanité. Et c'est là, ici il n'y a maintenant ni juif ni grec, c'est-à-dire ni juif ni païen. Le mur qui les séparait, quel est le mur qui les séparait? C'est l'alliance. L'alliance que Dieu a fait avec Abraham a érigé un mur, ceux-là sont des païens, des gentils, ceux-ci sont des fils d'alliance. Et Jésus a brisé ce mur de l'inimitié. Inimitié veut dire qu'il les rendait ennemis. D'adversité, Jésus l'a détruit. Et il a accompli par sa chair, ils sont devenus un seul peuple. Écoutez maintenant, ça c'était le mardi. Le vendredi, nous avons évolué et jeudi, ici parmi les nations, il y avait des lois qui le gouvernaient. D'où venaient ces lois? Parce que papa et maman ont péché, ils sont déchus, ils n'ont plus Dieu, ils sont chassés du jardin. Tous ceux qui naissent de cette lignée-là, cherche Dieu en tâtonnant parce que la pensée de l'éternité est gravée dans leur cœur. Ils cherchent Dieu en tâtonnant. Et parce qu'ils ne peuvent pas le trouver, parce que Dieu, on ne le trouve pas à moins qu'il se révèle. Ceux-là ont échappé parce que Dieu s'est révélé à Abraham et il s'est révélé à eux. Mais tous ceux qui sont restés ici, en tâtonnant, en cherchant Dieu en tâtonnant, ils sont tombés sous les forces occultes, les puissances des ténèbres, organisées en système qu'on appelle sacerdoce ou des systèmes spirituels. Et ces systèmes ont érigé des lois négatives qui rendent ceux-ci esclaves. Et je disais le vendredi, pour arriver à vaincre ces lois, ne vous attaquez pas aux lois, cherchez les systèmes qui soutiennent les lois, les sacerdoces. Et Dieu l'a fait, il envoie Jésus avec un nouveau sacerdoce, un nouvel ordre qu'on appelle de Melchisedec, afin que tous les sacerdoces qui régissaient les différents peuples tombent. Et ces sacerdoces sataniques, en tombant, les lois qui les régissaient, les lois qui y étaient inspirées, tombent caduques. C'est ce que je dis le vendredi. Le vendredi, je voulais dire, et même pour ceux qui n'étaient pas là, que toutes les lois négatives qui agissent sur les Congolais n'ont aucun pouvoir d'agir sur vous. Qui agissent sur les membres de votre tribu biologique n'ont aucun pouvoir d'agir sur vous. Parce que vous n'appartenez plus en réalité à cette lignée, vous appartenez à la nouvelle lignée. Et j'ai dit quelque chose de très grave, je trouverai le temps d'y revenir. Jésus-Christ n'est pas seulement une personne, Jésus-Christ est également un principe, une loi. C'est la loi de la création, c'est le principe du Verbe éternel qui a créé. Je trouverai le temps pour revenir, cela est important. Donc ces lois sont tombées. Vous devez prendre conscience de cela. Et refuser, quelles que soient les alliances, les engagements que les ancêtres ont conclus avec le diable, ces engagements s'arrêtent à vous et ça ne vous passera même pas. Comme c'est une question d'hérédité, comme ça s'arrête à vous, vos enfants sont exonérés de ces malédictions. Oh mon Dieu, je disais de ces blocages, oh mon Dieu, je disais de tout ce qui freine les gens dans la vie, ils n'auront ni l'eau ni partage parce que vous, vous avez fait une frontière en disant ça s'arrête là. Chaque chose commence avec un homme et ça peut s'arrêter avec un homme. Le péché a commencé avec un homme, Adam, et le péché s'est arrêté avec un homme qu'on appelle Jésus-Christ. La déchéance a commencé avec un homme qu'on appelle Adam, et la justification a commencé avec un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Je reviens pour que cela entre. Ceux-ci et ceux-là sont des pécheurs, pas pour des choses qu'ils commettent ou des pensées qu'ils conçoivent, mais ils sont des pécheurs simplement pour avoir été sortis du sein d'Adam et Ève. De la même manière, ceux-là sont justes, non pour des œuvres qu'ils commettront, pas pour des paroles ou des pensées, mais ils sont simplement justifiés à cause de l'obéissance de Jésus. Je vais emprunter les phrases bibliques, comme ça devient indiscutable. Si par la désobéissance d'un seul homme, tous ont été déclarés pécheurs et la mort, c'est la conséquence du péché, c'est étendu sur plusieurs, à combien plus forte raison, par un seul acte d'obéissance, plusieurs seront rendus justes et recevront l'abondance de la grâce qui les feront régner dans la vie. Il y a des conséquences qui suivent la condamnation ou l'état du pécheur. Il y a également des conséquences qui suivent la justification lorsqu'on reçoit Christ. C'est clair jusque-là? Ok, et aujourd'hui alors, je parle de quoi? Aujourd'hui, je vais régler les dossiers qui restent de ces cliques de gens, mais en rapport avec nous, bien sûr. La loi dont le sacerdoce a été renversé le vendredi est des lois de tous, ce sont des lois des nations. Parce que ce sont des lois négatives qui combattent l'avancement des peuples et des gens. Mais les lois qui ont été données à Israël ne sont pas des lois négatives. Ce sont des lois positives. Et ces lois ont été données par Dieu, soutenues par les sacerdotes lévitiques. Prenez la déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les articles, c'est juste une copie-collée des 10 commandements de la Bible. Ils ont simplement changé les phrases. Quand on dit droit à la vie veut dire quoi? Tu ne tueras point. Droit à la propriété veut dire quoi? Tu ne voleras pas ce qui est à autrui. Ainsi de suite. Tous les 10. Donc, quand vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous mettez les 10 commandements. Et d'ailleurs, la plupart des constitutions de toutes les nations ont cet héritage judéo-chrétien. Cette loi n'était pas négative. La loi était spirituelle. Et Dieu a donné la loi à ceux-ci. Il les a mis de côté et leur a donné la loi à cause de la nature qu'ils ont héritée de leurs parents Adam et Ève. Que la loi les aide à atténuer leur méchanceté et à pouvoir aussi peu qu'ils peuvent se lever vers Dieu pour communier avec Dieu au moyen du sang, des boucs, des sacerdoces, qu'ils soient distingués d'autres peuples. Le rêve de Dieu, au fait, était que ce peuple obéisse à la loi et en obéissant à la loi, ils deviendront une nation modèle qui va inspirer toutes les nations de la terre à faire le modèle d'Israël. Je vous donne juste un exemple. Ça va vous aider. Toutes les nations de la terre, lorsque généralement, nous avons hérité ça, je ne sais pas de qui. Lorsque quelqu'un meurt, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons des bouquets de fleurs, que ça soit artificiel, mais normalement ça doit être naturel. Artificiel parce qu'il n'y en a pas autant naturel. Nous prenons des bouquets de fleurs, nous allons déposer à la tombe au lieu d'aider. Vous savez comment nous faisons? Ce peuple dit, nous ne faisons pas ça. Parce que dans la loi, Dieu dit qu'il t'a planté l'homme au jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et si nous coupons le fer pour mettre à la tombe des morts, c'est du gaspillage, c'est la nature qui perd. Toute la fois que les arbres sont coupés, c'est la nature qui perd et cela retourne contre l'homme. Et sort, ça c'est pas une loi, une tradition, mais qui dérive de cette logique de l'écriture. Toute la fois que quelqu'un meurt, on plante un arbre à son honneur, ou à sa mémoire, je voulais dire. L'arbre pousse, il devient une bénédiction pour la nature, pour la terre. Et les souvenirs de cet homme peuvent être gardés. Le roi Baudouin est mort à Bruxelles. Toute la communauté, tout le peuple belge ont amené des fleurs. Et quand, imaginez, ça serait combien de tonnes de fleurs qu'on a coupées, la nature a souffert pour aller honorer la mémoire du roi. La communauté juive de Belgique, sous bien sûr la direction du grand rabbin de Bruxelles, a dit, nous ne faisons pas cela. Nous allons planter une forêt à l'honneur du roi. Les gens boudaient, ils veulent toujours être différents des autres, ils veulent faire des choses pour se faire croire et tout et tout. Mais la suite c'est quoi? C'est que lorsque leur forêt a grandi, la reine Fabiola est venue inaugurer cette forêt. Et cette forêt est devenue un poumon qui serve toute la ville de Belgique et qui porte le nom du roi Baudouin. Ça c'est la sagesse divine. Donc cette façon de faire les distingue des autres peuples de la terre. C'est pour ça que cette loi a été donnée. Pour que tout le monde regarde, les écologistes parlent aujourd'hui de tous les dégâts que nous avons commis. Dieu n'a pas attendu que ces dégâts arrivent. Déjà dans Genèse, Dieu a dit, l'homme doit garder et cultiver la terre et garder. C'est-à-dire en les cultivant, qu'ils ne fassent pas en désordre, de peur que la terre se retourne contre lui. Et puis on va dire que Dieu punit la terre avec le réchauffement climatique. Dieu n'a rien à voir, c'est juste les conséquences de ce qu'on a violé le principe que Dieu a donné. Il y a plusieurs autres exemples que nous pouvons prendre ainsi de suite. Le but de Dieu avec ses peuples, c'était qu'ils obéissent à la loi, qu'ils obtiennent des résultats qui inspirent les autres et que toutes les nations voient ce que doit être une nation et un peuple au modèle de Dieu. Mais malheureusement, ils n'ont pas obéi à la loi. Parce que le problème de la loi, tu obéis à un commandement et le reste, et tu désobéis à un seul, le reste tombe. C'est une chaîne qui est liée. C'est un rouage lié. Si un est brisé, toute la chaîne tombe. Depuis Moïse jusqu'à ce que Jésus vienne, ils se sont battus pour obéir à la loi, mais ils n'ont pas pu obéir à la loi. Et maintenant que Jésus vienne, ce sont des lois, je dis bien, positives. La Bible dit que la loi est spirituelle. La loi n'a pas été donnée pour conduire l'homme au péché. La loi est spirituelle, mais la nature de l'homme, mélangée à la loi, ne la conduit nulle part. C'est pourquoi nous avons lu avec vous que la loi n'a rien amené à la perfection. Et Dieu conclut en disant, à cause de son inefficacité et de son inutilité, elle devait être abrogée. Lorsque Jésus arrive, parce qu'il est né ici et qu'il est né sous cette alliance, sous cette loi, lui a accompli la loi. Vous voyez, le vendredi, j'étais très méchant. Le vendredi, j'étais très dur. J'étais en colère contre les lois des nations. Je disais, là, on négocie pas. Il fallait détruire et renverser toutes les sacerdotes qui soutenaient ces lois parce qu'elles sont négatives. Quand bien même elles auraient des apparences positives. Mais ici, je suis prudent. Vous voyez comment je me bats pour trouver le mot. Parce que la loi a été donnée par Dieu. Elle est positive. C'est une loi qui doit donner la vie, faire progresser les gens. Jésus arrive et il accomplit la loi dans sa totalité. C'est pourquoi, avant de l'accomplir, il a annoncé en disant, le Fils de l'homme n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. L'accomplir veut dire obéir totalement à la loi. Et lorsqu'il accomplit la loi, il va à la croix mourir pour ceux qui n'ont pas accompli la loi, alors que lui a obéi, il va se charger de désobéissance des autres. Mais lorsqu'il accomplit la loi, l'alliance, Jésus s'écrit à la croix, tout est accompli. C'est-à-dire l'alliance avec Israël, je viens de l'accomplir dans tous ses règlements, dans toutes ses prescriptions, dans toute la loi, j'ai l'accompli. Et parce que c'est accompli, si quelqu'un a construit une maison, il a fini la maison, tout est fini. Il ne faut même plus continuer à construire. Si vous voulez construire, allez construire ailleurs. Celle-là est déjà finie, il faut l'habiter. Jésus accomplit la loi et il prend toute l'alliance. Parce que la loi n'est pas un cadre isolé. La loi est un élément de l'alliance de Dieu avec Israël. Il prend l'alliance, il le met de côté. Il ne l'a pas abrogé, il l'a accompli. Après l'avoir accompli, il le met de côté. Et ici à la croix, il inaugure une nouvelle alliance avec un nouveau sacerdoce, avec un nouvel ordre et avec une nouvelle loi. Maintenant, ma difficulté à moi, en tant que prédicateur, en tant qu'église, c'est que la loi est tellement bonne, elle est tellement spirituelle, que je ne vais pas me débarrasser de ces 10 commandements. Toutes les autres lois, je peux les mettre de côté, j'ai dit ça concerne les juifs. Mais les 10 commandements, c'est tellement noble, ça a inspiré la construction de tous les pays de la terre, ça a inspiré la civilisation moderne, j'ai dit ça, je vais garder. J'ai dit ça au premier culte, j'étais à la synagogue, ici au centre-ville, le mercredi. Alors, un juif s'approche de moi et il me dit, toi, tu as le même sang que moi. Tu es mon frère juif. Mais ton seul problème, c'est que tu n'as pas su supporter la loi. Ne pas manger les porcs, ne pas travailler les samedis, ne pas faire ceci. Tu as trouvé tout ça embêtant. Tu as fui et tu es venu naître au Congo. Mais en te regardant, je vois que toi, tu es mon frère juif. Tu as le sang des juifs. Mais tu as seulement fui la loi. Tu as vu les complications de la loi. On n'est pas mangé les porcs. On n'est pas fait ceci. Oh, tu as fui ça, tu es venu naître. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Je ne sais pas si j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et je ne sais pas non plus si lui-même a compris ce qu'il voulait dire. Mais je crois qu'il a raison. Mon problème, c'est ça. Les lois de la première alliance sont très embarrassantes. sans appel, ce sont des fardeaux. Lorsque nous avons lu Hébreux 12 le mardi, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui s'attache à nous. Parmi ces fardeaux, il y a également des lois. Je l'invente parce que c'est Jésus qui a dit. Jésus disait aux pharisiens que vous êtes des hypocrites. Vous mettez sur des gens des fardeaux que vous ne pouvez pas transporter. La loi pèse. Et personne ne peut courir dans la carrière qui lui est ouverte aussi longtemps qu'il a les lois. Je fais une déclaration en disant, la loi de l'ancienne alliance ne concerne pas la nouvelle alliance. Nous n'avons rien à voir avec les 10 commandements que Dieu a donné à Israël. Ça ne nous concerne pas. Jésus les a accomplis en nous à la croix du calvaire. Nous nous alignons avec Jésus et nous acceptons de marcher avec Jésus. Et Dieu nous regarde en Jésus. C'est compliqué et difficile de dire ça. Parce que j'ai organisé des enseignements et des séminaires sur les mensonges, sur l'adultère, sur la convoitise. J'ai enseigné ces choses. Revenir sur ces choses n'est pas facile pour moi. Je disais au premier culte, ma difficulté étant que prédicateur, cette fois-là je parle de moi-même, hein, parce que Timothée, je parle de moi. Ma difficulté étant que prédicateur, c'est quoi? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre, que chaque chose se produit selon le modèle que Dieu lui a donné. Ce n'est pas à moi d'imposer aux choses de me donner des moissons que je veux. Je prends un exemple. Si je vais avoir du manioc, je fais quoi? Je ne prends pas du manioc et je le sème. Ça ne me donnera jamais du manioc. Ma difficulté à moi, c'est que toutes les fois que j'ai besoin du manioc, je vais chercher le tubercule de manioc, je le sème et j'attends que le manioc sorte. Non. Quand on a besoin du manioc, vous prenez le boutir et vous plantez. C'est alors que les racines vont se former et le manioc de tubercule sortira. Mais cette fois-là, si j'ai besoin d'un avocatier, je ne fais pas la même procédure. Je ne prends pas un morceau d'avocatier, une branche, je vais le semer, ça ne produira jamais. Cette fois-là, je dois prendre l'avocat et retirer le noyau, planter le noyau. Ça, c'est la difficulté de l'église, mon frère, ma gloire. C'est que moi, étant que prédicateur, je pense que pour amener les gens au ciel, je dois leur parler du ciel. Faux! Je pense que pour amener les gens à la sanctification, je dois leur parler du péché. Et de cette façon-là, le péché a été exalté, élevé. Et la Bible dit ceci, le goyon de la mort, c'est le péché. Mais la force du péché, c'est... Je ne vais pas le dire, vous le disiez vous. C'est Romain qui le dit, moi je ne vais pas dire. La force du péché, c'est quoi? La puissance du péché, c'est la loi. C'est-à-dire, la loi renforce le péché. Il donne au péché sa force. Je crois de tout mon cœur que par la grâce de Dieu, j'amènerai des millions de personnes au ciel. Sans forcément essayer de vous décrire à quoi ressemble le ciel, parce que je n'ai pas tous les détails. Ce que Jean me dit dans l'Apocalypse, c'est très compliqué, je n'ai pas encore maîtrisé. Mais je sais qu'il y a une semence lorsque vous le semez. Je vais expliquer ça beaucoup plus clairement. Je parlais de la foi au premier culte. Vous voyez, le message de la foi n'existe pas. Moi, étant que prédicateur, j'ai inventé, j'ai tissé le message de la foi parce que j'ai remarqué une crise de foi à l'église. Vous voyez, Jésus dit, si tu as une foi, petit comme un grain de sel. Jésus n'a pas enseigné comment avoir cette foi-là. Il dit, vous cherchez beaucoup. Non, juste comme un grain de sel, ça suffit. Les montants se déplaceront. Mais moi, étant que pasteur, je regarde l'église, je ne vois pas la foi, il n'y a pas de résultat. Alors je mets mon intelligence, je réfléchis, je prends des versets, je confectionne un enseignement sur la foi. Or, lorsque vous voulez des arachides, vous ne prenez pas ces gerbes-là pour les planter, ça ne vous donnera pas des arachides. Vous prenez des grains que vous plantez, alors ces gerbes sortiront et les arachides arriveront. Le message qui donne la foi, c'est le message de la justification, c'est le message de la rédemption, le message de la mort, de la résurrection, du ministère de Jésus. Dans Actes, il est écrit de Paul ceci. Paul prêchait. Il a prêché. Et alors, il y avait un homme important, un paralytique. Paul le regarde et voit la foi en lui. Paul ne prêchait pas le message de la foi. Non. Il ne prêchait pas, ce n'était pas une réunion de miracles. Ce n'était pas une réunion de guérison. Paul prêchait. prêcher la révélation de Christ, le mystère de la piété, Dieu qui est devenu homme, qui a habité parmi les hommes, qui a été crucifié. Mais à force de prêcher ce message, la foi est entrée dans le cœur de cet homme. Pierre le regarde, Paul, il voit la foi et il ordonne au nom de Jésus de s'élever. L'homme commence à marcher, toute la ville s'écrie, des dieux sous formes humaines sont venus au milieu de nous. Je vais arriver là où je vais arriver. Je l'ai fait avec beaucoup de précautions, mais je vais y arriver. Je n'ai pas de choix. Je disais, le 10 commandement est un message de condamnation. Chaque prédicateur qui prêche les 10 commandements et toutes les autres lois est en train de prêcher le message de la condamnation. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Il est en train d'exalter la puissance du péché. Il est en train d'exalter la force de Satan sur Adam et Ève. Il est en train de prouver encore que depuis Moïse, et Dieu s'arrange à ce que les choses ne marchent pas pour que tout le monde se rende compte que la loi... Je l'ai lu, frères et sœurs, je ne l'ai pas inventé. Est-ce que faire Emmanuel, tu peux me retrouver le verset qui dit la loi n'a rien amené à la perfection. Ce n'est pas la loi satanique des nations, on a parlé vendredi. Là, il est question de la loi de Dieu. C'est toujours des recettes. Tu ne le retrouves pas? Quelqu'un peut lui dire.
19.
On y va, merci.
Car la loi n'a rien amené à la perfection.
La Bible dit.
Introduction d'une meilleure espérance.
Avant même introduction, on parle de l'abolition. Plus loin, quel verset? On parle de l'abolition à cause de son inutilité et de son inefficacité. Celui qui a donné, verset 18, merci. Celui qui a donné la loi, lisez-moi 18. Celui qui a donné la loi a examiné, a fait l'inventaire. Il a trouvé que la loi était inefficace et inutile. Et il a abrogé cette loi et il a introduit une espérance meilleure.
Verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure.
Cette ordonnance, c'est la loi relative à l'ancienne alliance.
À cause de son impuissance et de son
inutilité. J'ai parlé d'inefficacité à cause de son impuissance et de son inutilité. La loi s'est avérée impuissante à changer l'homme, à aider l'homme à s'approcher de Dieu. La loi s'est révélée inutile et Dieu a abrogé l'ordonnance. Pourquoi nous sommes têtus? Pourquoi nous ne voulons pas? C'est lui qui a donné la chose, c'est lui qui se rend compte que la chose n'a pas aidé. Dieu l'a aboli. Pourquoi nous nous y accrochons alors? J'ai une réponse. Termine le verset 19, je donnerai la réponse. Pourquoi on s'y accroche?
Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu.
Verset 19. On a introduit une nouvelle espérance, c'est Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est par cette espérance que nous devons nous approcher de Dieu. Plus jamais par la loi, parce que la loi n'a amené personne à la perfection. La perfection, c'est le standard de Dieu. La loi n'a amené personne. J'ai la réponse. Pourquoi on s'accroche à la loi? Pourquoi on aime la loi? Pas pour moi, pour mon voisin. Ouais. Parce que je vais condamner mon voisin. Je vais l'accuser chez le pasteur. Je veux qu'on puisse le suspendre. Je veux qu'au travail, on lui crée des problèmes. Je veux au quartier qu'on puisse pas l'épouser. Elle est une mauvaise fille. C'est comme ça, j'exalte la loi. Le problème d'Israël, frères et sœurs, Israël a adoré la loi au lieu d'observer la loi. La loi n'a pas été donnée pour être adorée. C'était pour observer. Et si vous n'êtes pas en mesure de l'observer, soyez honnête, dites au kogite, totiki makamoyango. Mais n'allez pas inventer, exalter la loi, commencer à l'adorer, le célébrer. La loi n'a pas été donnée pour être célébrée. Vous avez déjà vu un mari qui a mal agi à la maison qui dit à sa femme, madame, écoutez, il est écrit marié, aimez vos femmes. Jamais. J'ai déjà vu une femme qui a créé des problèmes à son mari et puis dit à son mari, non, mon chéri, il est écrit, femme, soyez soumise. Non. On ne prend que les versets qui concernent l'autre. C'est lorsque la mal agit qu'on sort, femme, soyez soumise. Et lorsque j'ai mal agi, elle sort, mari, aimez vos femmes. La loi est bonne. D'ailleurs, pourquoi je souffre, Romain dit que la loi n'est pas faite pour les justes. La loi est faite pour les injustes. Et ce sont des injustes qui aiment la loi. Ce sont des injustes qui célèbrent la loi. Ce sont des injustes qui exaltent la loi. Alléluia. Jésus a amené une révolution. Il a accompli la loi point et trait. il a mis de côté, il a inauguré une nouvelle alliance. Et dans cette alliance, il a introduit un sacerdoce royal. Et il a introduit l'ordre de Melchisédek. Et il a donné une seule loi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dites au voisin, pointe. Je n'entends pas, dites-lui, pointe. Parle bien, dites-lui, pointe. Dites-lui, le reste là, ça ne me concerne pas. Dites-lui, moi, je n'ai qu'un seul commandement. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Non, non, il n'est pas convaincu. Dites-lui, le reste là, ça ne me concerne pas. Dites-lui, moi, je n'ai qu'un seul commandement. Posez-lui la question, c'est quoi ce commandement-là? Donnez-lui la réponse. Hey! Hey! Jean chapitre 13, verset 34. Jean 13, verset 34.
Je lis au nom de Jésus. Je vous donne un commandement nouveau.
C'est Jésus qui parle, il dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est que l'ancien là, continue.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Continue.
Vous aussi, aimez-vous les uns les autres.
Regarde le voisin, dites-lui, aimons-nous les uns les autres. Regarde le voisin, dites-lui, frère, soeur, tu dois m'aimer. Le bon esprit a bien. Ce qu'a un jeune fille, un jeune garçon, le bon esprit a bien. Jean chapitre 15, verset 12. Jean 15, verset 12.
Jean 15, 12, nous lisons. C'est ici mon commandement.
C'est ici mon commandement.
Aimez-vous les uns les autres.
La nouvelle alliance. Aimez-vous les uns les autres.
Comme je vous ai aimé.
Comme je vous ai aimé. C'est ici mon commandement. Frère, écoutez-moi. Les 10 commandements et les autres lois ont été donnés dans le livre d'Exode. Le livre de Lévitique, de Nombre et de Deutéronome n'est que le développement de la loi. Comment les mettre en pratique, si tu n'as pas mis en pratique, si ça n'a pas marché. Donc c'est ça la raison d'être. Dans l'évangile des Jean, le maître donne la loi de la nouvelle alliance, un commandement nouveau, et les épîtres à partir des Romains jusqu'à l'épître de Jude, c'est le développement de cette loi, de ce nouveau commandement. Laissez-moi vous dire ceci. La loi que Dieu a donnée à Israël, avec en tête les 10 commandements, cette loi était taillée sur mesure des hommes naturels, des hommes, de l'homme animal qui n'est pas né de nouveau. Son esprit est éteint. Mais par cette loi, il peut s'efforcer quand même à se relever avec tout le sang des taureaux à côté et de parler et de communier avec Dieu. Mais le commandement que Jésus donne, la nouvelle loi, concerne ceux qui sont nés de nouveau. C'est à leur mesure, à leur taille. Si ceux-ci décident de prendre la loi de ceux-là, ils ne pourront ni marcher. C'est comme David avec l'armure de Saoul. Ils ne pourront pas faire de progrès. Ceux qui sont restés ici et ceux-là, s'ils prennent aussi la loi d'ici, ils ne pourront jamais s'en sortir. C'est pourquoi toutes les nations de la terre, il n'y a dans aucun pays au monde où il y a une loi qui dit aimez-vous. Si tu n'aimes pas quelqu'un, on va t'arrêter. Ça n'existe pas. Cette loi n'existe pas. Quelqu'un va aller t'accuser au parquet. Non, mon voisin ne m'aime pas. Aucun magistrat ne va prendre cette plainte-là. Dites-moi qu'il t'a insulté. Dites-moi qu'il a sali ta réputation. Dites-moi qu'il a volé. Dites-moi qu'il a fait ceci. Et tout ce qu'il va te dire là, c'est la loi de l'ancienne alliance. Sinon, le modèle qu'on a rectifié ou amélioré. Aucun tribunal ne va te dire, oh non, aucun pays va dire, non, 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 aimez-vous les autres. Ça n'existe pas. Alors que c'est ça l'essentiel. Pourquoi? Parce que ce commandement-là est conforme que pour ceux qui sont nés ici. Frères et sœurs, le plus intelligent, le plus fort, le plus sage d'entre nous. Si nous le mettons sous l'eau et qu'il doit vivre là-bas pendant 30 minutes, il ne le saura pas. Ceux qui peuvent dépasser 30 minutes, nous leur donnons une heure, ils n'arriveront pas. Ceux qui peuvent se battre pendant une heure parce que peut-être qu'ils ont des poumons spéciaux d'acier, si nous leur donnons une journée entière, ils ne sauront pas. S'ils arrivent quand même par miracle, une semaine, ils n'arriveront pas à vivre. Pourtant, vous êtes plus intelligent que les poissons. Vous êtes plus grand que les poissons, plus fort que les poissons. Mais le poisson, dans cette eau-là, il vit à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il a été créé pour cet environnement-là. Et vous n'avez pas été créé pour cet environnement-là. L'église n'a pas été créée, n'a pas été faite pour la loi de Moïse. Elle ne suffira pas. Ils vont se noyer. C'est un poids énorme qui va les écraser. Et le retard que nous avons est dit à cela, nous avons pris ce qui ne nous convient pas. De la même manière, si vous sortez un poisson en dehors de l'eau pendant longtemps, il finira par faire quoi? Mourir. Là, il n'est question ni de l'intelligence, ni de la force, ni de la volonté, mais il est question des dispositions du Créateur. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un ce que Dieu ne lui a pas donné. Pourquoi jalouser quelqu'un pour quelque chose que Dieu lui a? J'aurais compris encore que tu le jalouses pour une voiture qu'il a achetée. Mais pourquoi tu dois le jalouser pour sa taille, pour son teint, pour sa race, pour ce que Dieu lui a donné, alors que tu n'as rien à faire avec ça? Dites aux voisins pécheurs ensemble, dites-lui, les 10 commandements et toute la loi ne te conviennent pas. Dis, ça ne t'épanouira pas, ça ne t'aidera pas à avancer. Ce qui est drôle, c'est quoi, frères et sœurs? Ce qui est drôle, c'est que je pose la question, je dis, mais quelque chose ne va pas. Parce qu'en fait, dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, nous avons des fois dit que dans l'ancienne, la nouvelle alliance, il était, et la loi c'était d'aimer Dieu. Non, 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 dans la nouvelle alliance, la loi d'aimer Dieu n'existe même pas. Non, non. Il dit, je vous donne mon commandement nouveau. Nous avons lu dans Jean 13, nous avons lu dans Jean 15. Est-ce qu'on a dit d'aimer Dieu? Non. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, point et trait. Dites aux voisins, n'ajoute pas ce qui n'existe pas. Je comprends votre bonne volonté, je comprends votre bonne volonté. Mais votre bonne volonté n'aide rien. Nous devons rester structurels. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer Dieu. Écoutez le problème. Tout cela, Sœur Annie, Florence et tous les autres, juste Papa Ghislain, Frère César et les autres, et tout cela, pourquoi on leur a demandé d'aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur force? Parce qu'ils ont hérité la nature satanique par la chute. Maintenant, pour aimer Dieu, ça devient un problème. C'est pourquoi on leur ordonne d'aimer Dieu, de faire des efforts pour aimer Dieu. Parce qu'ils ont un problème de nature. Mais ceux-là sont nés de Dieu. Ils sont la sémence de Dieu, la nature de Dieu, la race de Dieu. Oh mon Dieu, je voulais dire qu'ils sont nés de l'amour de Dieu. Ils n'ont pas besoin d'un commandement pour aimer Dieu. Et pour aimer Dieu, c'est naturel. Ça coule, ça fait partie de leur nature. Ils vivent pour ça. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un. Mon exemple ne va pas tellement ressembler à celui-ci, mais j'en ai pas d'autre. Je vais faire seulement un rapprochement. Chaque maman, à moins qu'elle soit possédée par des démons ou qu'elle soit anormale, une maman normale, personne ne l'exhorte pour aimer ses enfants. Mais pour les neveux de son mari, pour les travailleurs et pour les enfants qu'on a adoptés, elle a besoin de l'exhortation et de l'encouragement pour aimer cela. Parce que ceux-là ne sont pas sortis de ses entrailles. Et si ceux-ci sont sortis, en fait, écoutez-moi, ils sont le produit de l'amour de Dieu. Ils sont le produit de l'amour de Dieu. Donc ils sont nés dans l'amour de Dieu. Ils font partie de l'amour de Dieu. Ils n'ont aucun problème à aimer Dieu. Ça c'est réglé. Le problème qu'on leur demande, c'est de s'aimer les uns les autres et d'aimer les prochains, les semblables, comme Christ les a aimés. Je vais parler aujourd'hui. J'ai fait une pause mardi, vendredi. On va parler d'autre chose. Mardi, vendredi, nous aurons des réunions. Rendez-vous de vie. La vie là, c'est la vie de Dieu, c'est Zoé. Des réunions puissantes. Amener des malades, amener des amis, des collègues de service. Nous avons déjà l'autorisation pour bloquer cet avenir. Et nous cherchons encore, je pense que, ou je ne sais pas, je n'ai pas les rapports de Pasteur Macaire, on cherche encore où déjà quelqu'un nous a offert louer les camions écrans géants. Si vous pouvez, voyez Pasteur Macaire, si c'est déjà fait, il va vous renvoyer. Il va vous laisser partir. Nous allons prendre des camions écrans géants. Mardi et vendredi, nous avons des grandes réunions. Mais avant cela, laissez-moi terminer ce que j'ai dit aujourd'hui. Et le dimanche prochain, je reviendrai avec ces messages. Et je verrai qui viendra à la Sainte-Seine du soir. Vous avez suivi le communiqué? Dimanche prochain à Sainte-Seine. Je vais parler aujourd'hui, je vais parler dimanche prochain. Et je verrai qui viendra prendre la Sainte-Seine dimanche. Frères et sœurs, le commandement nouveau, c'est de nous aimer les uns les autres. Frère, écoutez-moi. notre effort, notre énergie, toute notre volonté doit se concentrer sur un seul point. C'est rester dans la communion du Père. Or, le Père est amour. Je vais vous montrer le chemin de la sanctification. Comme je disais, si vous voulez des patates douces, vous ne plantez pas des patates douces, non. Vous plantez des plantes là qui font que les patates douces sortent. Il y a un message qui engendre la sanctification. L'église a les problèmes avec le péché. Nous nous luttons, nous nous battons tous avec le péché. Parce que nous avons cru que le message de la sanctification sanctifie l'église. Non, le message de la sanctification ne sanctifie pas l'église. Ce qui sanctifie l'église, c'est autre chose. Écoutez-moi. La seule garantie de ne pas pécher, c'est rester en communion avec Dieu. C'est pas la prière. C'est pas le jeûne. Je reviendrai. C'est la communion avec le Père. C'est la communion avec le Père. Frères et sœurs, est-ce que nous avons réfléchi? L'enfant prodigue, aussi longtemps qu'il était dans la maison de son père, dans les quartiers où ils habitaient, il y avait de très jolies filles. Il y avait des jeunes gens délinquants, des bandits qui s'enivraient dans le soir dans les bois de nuit, qui se droguaient. Vous pensez que dans les quartiers où habitait son père, il n'y avait aucune tentation? Mais comment il n'est jamais sorti avec ses prostituées, ses filles? Comment il n'est jamais allé s'enivrer? Comment il n'est jamais allé se droguer? Pourquoi? Parce qu'il était chez le Père, il était dans la communion du... Non, toi tu es déjà Adam. Parce qu'il était dans la communion du Père, il vivait avec le Père. Il est là dans la maison du Père. C'est-à-dire, lorsqu'il sort, il va à l'école, il voit tout ce qu'il peut voir. Mais lorsqu'il rentre, il voit la gloire du Père, la beauté du Père, l'amour du Père, la splendeur du Père. Tout ce qu'il a vu à l'extérieur pâlisse à ses yeux. Aussi longtemps qu'il était là, les tentations existaient. Mais l'amour du Père, la gloire du Père était plus fort. Si un ami du service vient lui dire, on va aller voler l'argent, on va faire un coup, on gagnera 15 millions de dollars. Lui, il dit, mais non, mon Père m'en donne 1 milliard par mois, je n'ai pas besoin d'aller voler 15 millions simplement. Sa force était dans la communion avec le Père, là dans la présence du Père. Des choses du monde pâlissent à ses yeux. Et le diable a su, l'ennemi a su. Aussi longtemps qu'il est dans la communion du Père, je n'arrivais jamais à la voir. La seule chose qu'il fallait, le détacher de la communion du Père. Lorsqu'il a pris la part de bien qui lui revenait, il est allé loin de la face du Père. Il n'y avait plus de modèle. Il n'y avait plus de choses à comparer. Il a vu des filles qui étaient laides et moches, puisque celles qui étaient dans son quartier. Mais ces filles ont réussi à les séduire. Il a reçu des tentations qui étaient moindres que ce qu'il connaissait là-bas. Mais ça arrivait à les séduire. Je vais dire une autre chose. Ça ne vous concerne pas, ça me concerne. Ma difficulté, c'est que je prêchais pendant des années en disant, quand quelqu'un pêche, ça brise la communion avec Dieu. C'est faux et archi faux. Non. C'est lorsqu'on brise la communion avec Dieu qu'on va aller pêcher. Nous avons échangé les causes et les effets. On a dit si quelqu'un ment, il a brisé la communion avec Dieu. C'est faux. Avant de mentir, il avait déjà brisé la communion. C'est ce qu'il a connu dans le péché. Quand tu es en communion avec Dieu, tu ne pécheras pas. Et l'effort du diable, c'est de nous détacher de la communion avec Dieu. Lisons. Cette fois, c'est plus l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Jean. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Restez là, pasteur. L'apôtre Jean dit quelque chose auquel c'est fantastique. Et pas ces gens qui le disent, nous pouvons comprendre. Parce que Jean, c'est cet apôtre qui était le plus jeune du groupe lorsqu'on les a recrutés. Et aussi, c'est lui qui est mort le dernier avec un âge plus avancé que tous les autres à l'île de Patmos. Il a été bouilli dans l'eau. On lui a demandé de renoncer au témoignage. Il dit, je ne pourrai jamais renoncer à ce témoignage. C'est cet apôtre qui a connu des choses dont il parle. Un Jean. Tournons nos Bibles ensemble. Les choses deviennent tellement sérieuses, je demanderai à tout le monde chaque dimanche de tourner la Bible et puis de lire ensemble parce que les choses sont tellement sérieuses, il faut que chacun soit sûr qu'il a lu dans sa Bible parce que peut-être qu'il peut avoir un problème. 1 Jean chapitre 1, si vous trouvez, vous me dites, on a trouvé. Celui qui n'a pas trouvé me dit d'attendre. 1 Jean chapitre 1, je suis en train de montrer la voie de la sanctification. 1 Jean chapitre 1er. Je commence au verset 2. Écoutez, il est écrit, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu. Vous voyez, ça, ce n'est pas un témoin de deuxième rang. C'est un témoin de premier rang, des gens qui ont expérimenté. Nous, là, on nous a rapporté. Mais lui dit quoi? Ce que nous avons vu et entendu. Et nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la justice. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. L'apôtre parle de la communion. Avec Dieu. C'est ça la force, c'est ça le secret de la sanctification. C'est lorsque cette communion est brisée, alors qu'on est exposé à toutes sortes d'impuretés et de péchés. Mais lorsqu'on est en communion avec Dieu, on n'a ni l'eau ni part au péché. Mais cette communion, l'apôtre l'a révélée. Merci. Cette communion, il dit, c'est la lumière. Si quelqu'un dit qu'il est en communion avec Dieu et qu'il marche dans les ténèbres, il est un menteur. Parce qu'en Dieu, il n'y a point de ténèbres. En Dieu, il y a la lumière. Et tout celui qui est en communion avec lui marche dans la lumière. Et maintenant, c'est quoi être dans la lumière? C'est quoi être dans les ténèbres? Je ne suis pas en train de faire un cercle vicieux, non. On est en train de progresser. Je parlais de la communion. Comment être en communion avec le Père? C'est en vivant dans la lumière. Lui est lumière. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion. Et là, d'ailleurs, la Bible précise. Lorsque nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion avec le Père, au même moment, les uns les autres, et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Je ne vois pas où nous avons confessé. Je ne vois pas encore où nous avons péché. Mais je vois un automatisme, c'est que le sang est disponible. Toutes les fois qu'on est dans la lumière et qu'on a entendu quelque chose qu'on n'a pas voulu entendre, cela a souillé nos oreilles. Le sang prend soin de nous purifier automatiquement. On a vu quelque chose auquel on ne voulait pas voir. Une pensée souillée est passée, on ne voulait pas la concevoir, mais elle est venue. Nous a laissé des traces. Le sang automatiquement nous purifie. Pourquoi? Parce que nous sommes en communion avec le Père et les uns avec les autres. Mais cette communion consiste à marcher non dans les ténèbres, mais à marcher dans la lumière. Mon équation n'est pas résolue. Et notre question arrive. Je peux le lire en vous. Et c'est quoi marcher dans les ténèbres et dans la lumière? Marcher dans les ténèbres, c'est pas mentir, c'est pas voler, c'est pas. Non. Marcher dans la lumière, c'est pas dire la vérité, donner l'offrande, obéir. Non. C'est pas cela. Ce n'est pas cela. Frère, regardez-moi. Quand je marche dans la lumière, voyez comme je suis là, je vois clair. Pas seulement à cause de la lumière du jour, mais parce que mes yeux voient. La lumière du jour peut être là, mais si vos yeux ne voient pas, vous ne verrez pas. Alors je décide d'aller jusqu'à la porte, je commence à marcher, parce que je vois, la lumière est là, mes yeux voient. Je marche, je ne bouscule personne. Je marche et puis je vais arriver jusqu'à la porte tranquillement. Si j'ai envie de traverser l'avenue jusqu'à la boutique, je peux y arriver. Si j'ai envie d'acheter quelque chose, je peux acheter parce que je vois la lumière est là. Tu comprends, frère Coco? Et maintenant, si j'ai envie de retourner à la chair, je peux marcher librement parce que la lumière est là, je vois, je ne crée aucun problème, j'arrive, je marche, ça peut me prendre le temps que ça prendra, mais je finirai par arriver à destination parce que mes yeux voient, parce que la lumière du jour est là, je suis en train de voir. S'il n'y a plus de lumière, excusez-moi, est-ce qu'on peut fermer nos yeux pendant 30 secondes tous ensemble? On y va, 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez? C'est les ténèbres ou la lumière? Ouvrez les yeux maintenant. Vous voyez la lumière ou les ténèbres? Fermons nos yeux une seconde, s'il vous plaît. 30 secondes plutôt. Un de toi. Nous voyons quoi? Écoutez maintenant. Si j'ai envie d'aller peut-être je peux encore, avec les traces qui restent dans mon cerveau, mes souvenirs, je peux encore réussir. Mais si la distance est longue jusque chez moi, je ne réussirai pas. Surtout qu'on est en train de tirer ces caniveaux. Si nous demandons à tout le monde de sortir d'ici et de partir sans ouvrir les yeux, on va nous ramasser la plupart dans les caniveaux là. Regardez, lorsque je ferme les yeux, je suis dans les ténèbres, je vais aller à la porte, je marche. C'est à la porte que je vais aller. Excusez-moi, c'est la porte que je cherche. Excusez-moi. Non, non, je me suis perdu certainement. Ça doit être de l'autre côté. Ça, c'est le cerveau qui m'aide quand même à me retrouver, qui me donne un peu l'essence. Excusez-moi. Vous voyez comment je souffre? Pourquoi? Mais c'est ça le péché. Le péché, c'est au fait de l'accident. Le péché, c'est-à-dire, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est-à-dire, tu es sorti de ta maison, le but, c'est d'aller au travail. Mais lorsque tu arrives en route parce que tu ne vois pas, tu piétines quelqu'un, tu injuries quelqu'un, tu tombes dans l'impudicité, tu marches, ce sont des accidents. Mais qu'est-ce qui crée cet accident-là? C'est parce que tu marches dans les ténèbres. Lorsque quelqu'un brise la communion avec Dieu, il sort de la lumière, il est dans les ténèbres, il ne peut rien voir, il commence à tâtonner, et c'est là où il prédit dans le péché. 1 Jean chapitre 2, ça va devenir plus clair, je le pense. C'est juste là où nous sommes, nous avançons. Chapitre 2, je prends par exemple à partir du verset 8. Écoutez, toutefois, ces gens qui parlent, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent. Vous voyez le commandement nouveau là, maintenant se relie aux ténèbres et à la lumière. Je recommence. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Qui peut me lire la suite de la phrase? Verset 10. Qui peut me crier la suite de la phrase? Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et... Je n'entends pas. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et... La source du péché, c'est lorsqu'on brise la communion avec Dieu. Dieu est lumière et il vit dans la lumière. Lorsque nous sortons de la lumière, la communion est brisée. Et sortir de la lumière où les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est la haine. L'amour, c'est la lumière. Cela veut dire ceci, Église. Si vous haïssez quelqu'un, votre esprit, votre être intérieur devient aveugle. Le ténèbre vous couvre. Et tout au long de votre parcours, vous ne voyez plus où vous allez. Et vous commettez des accidents. C'est ça ce qu'on appelle le péché. Je vais expliquer ça beaucoup plus clairement. Cela veut dire, moi j'ai un problème avec Ancien Matou qu'on n'a pas réglé. J'ai conçu la haine de l'Ancien Matou. Maintenant je le laisse. Je rentre chez moi à la maison. Mais la haine que j'ai vis-à-vis de l'Ancien Matou m'a aveuglé spirituellement. Je suis dans les ténèbres. J'arrive chez moi à la maison, ma femme commet une petite erreur, faute qu'elle a toujours commise. Mais je m'énerve cette fois-là. Au fait, le problème, ce n'est pas elle, c'est la haine que j'ai vis-à-vis de l'ancien matou. Mais la difficulté que nous avons, nous n'arriverons jamais à relier le lien entre le mal que nous avons commis et son origine. Une tante vous a arraché la parcelle. Ça fait des années qu'elle est en Bougemaï. Non, pas en Bougemaï. Les gens de Bougemaï n'arrachent pas la parcelle. C'est les gens des deux régions ici, pour Bandundu et Bakongo. Et la tante qui est, ou l'oncle qui est à Massimanimo ou à Kisanto, vous a arraché la parcelle. Vous avez grandi, vous avez souffert, vous avez conçu la haine dans votre cœur. Maintenant que vous êtes converti, vous ne vous êtes jamais vidé de cette haine. Cette haine vous aveugle. Oui, vous êtes né en Jésus-Christ. Mais la haine, c'est les ténèbres. Dieu est la lumière. À ce moment-là, votre haine vous sépare de Dieu. Et parce que vous êtes séparé de Dieu, vous commencez à trébucher dans la vie. Au fait, écoutez-moi. Les jeunes filles, écoutez-moi. Lorsque non marié vient te dire, je t'aime, tu vois, non. C'est la haine qu'il a pour sa femme qu'il vient transférer chez toi. C'est pourquoi Romains 13 nous dit ceci. Lisons-les, on va lire encore. Pour qu'on ne dise pas que David est en train d'inventer. Lisez-nous Romains 13 verset 8. Écoutez ça, Romains 13 verset 8.
Ne devez rien à personne.
Ne devez rien à personne.
Si ce n'est de vous aimer
si ce n'est de vous aimer les uns les autres.
Car celui qui aime les autres
Attention, attendez. Tu recommences.
Ne devez rien à personne.
Non, tu me lis comme ton professeur lisait à ULB. Je sais que tu étudies à ULB. Lis-moi comme ton professeur lisait à ULB. Oui, il a étudié à ULB.
Ne devez rien à personne.
Ah, c'est comme ça qu'il lisait, ces belges-là.
Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi.
Celui qui aime les autres a accompli la loi. Pourquoi se battre avec les 10 commandements et les autres? Simplement en aimant les autres, automatiquement, inconsciemment, vous avez accompli toute la loi. Mais pourquoi nous disons que Jésus a accompli la loi? Parce que Jésus, c'est l'incarnation de l'amour. Il a aimé le monde. Il a aimé ses ennemis. Il a aimé ceux qui n'étaient pas aimables. Et en aimant ces gens-là, il a accompli quoi? La loi. Frères et sœurs, l'amour est plus fort que la mort. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la mort est la force la plus grande. Parce que c'est la conséquence du péché. Après le péché, il n'y a pas d'autre danger plus grand. Sinon la mort. Mais l'amour est plus fort que la mort. L'amour peut arriver à conquérir la mort. L'amour peut arriver à dompter la mort. Lorsque quelqu'un aime, il entre dans la dimension de Dieu. C'est ça la communion. Dieu est amour. Et quand quelqu'un aime, il s'élève lui-même à la dimension de Dieu. Si tu veux avoir la victoire sur tes ennemis, sur tous ceux qui te combattent, qui parlent contre toi, tu n'as pas à te plaindre. Tu n'as pas à les maudire. Tu n'as pas à gêner contre eux. Tu n'as qu'à les gêner. L'amour est une puissance. L'amour est une force. Ça, c'est le standard de Dieu. L'élément le plus requis dans l'occultisme et dans les ténèbres pour monter des grades, être fort et dominer, l'élément le plus requis sur lequel on fait le concours, le cours qui a la plus grande pondération, c'est la haine. Plus tu développes la haine, plus ton cœur devient méchant, plus le diable est content, il t'élève encore. Et le contraire est dans ce royaume. La santé spirituelle, la vie chrétienne, c'est l'amour. La prière, les jeûnes ne sont que des exercices spirituels. Mais la vie, c'est l'amour. Lorsque vous aimez, vous êtes dans la lumière, aucune occasion de chute n'est en vous. Terminez-moi ce que tu es en train de lire, s'il vous plaît, frère Emmanuel. Vous étiez au 41 verset. Continuez. C'était Romains 13, vous étiez au verset 8. Continuez maintenant. Vous êtes perdu?
Verset 9.
Verset 9.
En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Répète-moi ce verset encore. Répète-moi ce verset.
En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole.
Tous ces commandements seraient dans une seule parole.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est cela le secret de la vie en Christ. C'est cela le secret de la victoire. Lorsque l'amour domine, tu es au standard de Christ. Et le péché ne trouve plus aucune porte en vous. Les ténèbres se dissipent. Et l'amour véritable apparaît. Frères et sœurs, même sans Dieu, vous enlevez Dieu de tout le système. L'amour en lui-même, inséré dans une famille. Je ne dis pas que la famille deviendra parfaite. Je ne dis pas que la nation deviendra parfaite. Je ne dis pas que sans Dieu on peut atteindre la perfection. Mais on aura une société agréable. Et le diable le sait. C'est pourquoi son pouvoir consiste. Le problème simplement, c'est nous qui n'arrivons pas à mettre le lien entre la haine que j'ai conçue et les autres péchés que j'ai commis. Tous les péchés résultent de la haine. Parce que la haine aveugle. J'étais en train de dire que la haine aveugle. Et parce que la haine aveugle, on est dans les ténèbres. Si chacun de nous ferme les yeux, prend sa Bible, il est difficile que chacun arrive, ne fût-ce que là où il a parqué, pour ceux qui ont des voitures. Vous aurez encore tous les membres avec vous, mais vous aurez du mal à arriver chez vous à la maison. Même la clé de votre contact, vous aurez du mal à fermer la portière de votre, d'ouvrir la portière de la voiture, parce que les ténèbres ont aveuglé votre cœur. Et la difficulté la plus grande de l'église, c'est à ce niveau-là. Nous avons enseigné aux gens comment prier, et ils prient très bien. Comment réciter le verset biblique, et ils récitent très bien. Nous avons enseigné aux gens comment fuir le péché. Ils se débrouillent en fuyant le péché, mais ils se retrouvent dans le péché. Parce que l'amour, nous l'avons négligé. Ce qui est même le fondement de tout. Ce qui est la spiritualité la plus élevée. Regardez ici, on arrive à haïr les gens pour rien. Juste pour rien, on arrive à haïr les gens, même les gens qui n'ont rien fait. Juste de la manière dont ils marchent, on est en train de l'haïr. On croirait que Dieu lui a donné 3 jambes alors que vous n'en avez que 2. Mais parce que vous avez 2 jambes, pourquoi ne pas essayer de faire comme elle fait et marcher comme elle? Lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, on trouve comment le faire du mal, comment l'arrêter, on n'y arrive pas. On fait une conjugaison de haine. Et vous pouvez voir dans cette nation, ce qui nous caractérise, c'est la synergie de haine. C'est la synergie de haine. Chacun de nous a appris à haïr. Et lorsque nous haïssons, nos prières s'évaporent. Notre puissance est diluée. Il n'y a rien qui s'élève au niveau supérieur. Parce que la haine a aveuglé nos yeux. Et nous ne pouvons plus marcher correctement. Arrêtez de vous battre avec tout le reste. Sondez votre cœur et que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous voyez la saleté, l'impureté, le souillir qu'il y a dans votre cœur. Ça peut être quelque chose de rien, quelqu'un a dit contre toi, mais qui s'est recalé quelque part dans ton système et ça t'a aveuglé. Nous cherchons la volonté de Dieu, nous prions, mais nous n'arrivons pas à aller de l'avant à cause de la haine. Regardez dans nos familles, les gens ici d'un même père, d'une même mère. Mais lorsqu'ils grandissent, juste pour un petit héritage, une petite maison que papa a laissée, il était seul à l'époque qu'il a laissé la maison, et il a acheté à 21 ans. Et vous trouvez 4, 5 gaillards de 38 ans, de 43 ans, qui s'entretuent à cause de cette maison. La méchanceté de cœur. Frères et sœurs, vous pouvez devenir prendre la direction de votre famille par la loi de l'amour. Celui qui a beaucoup d'argent en famille, les gens vont lui obéir, seront autour de lui. Non à cause de la sincérité de leur cœur, mais parce qu'ils veulent gagner quelque chose de lui. À cause juste de la flatterie, ils veulent gagner quelque chose, ils seront. Mais celui qui aime véritablement, c'est lui qui devient le maître de la famille. Il y aura toujours quelqu'un pour te faire du mal. Il y aura toujours quelqu'un pour te citer à haïr. Il y aura toujours quelqu'un avec des paroles méchantes, parce que le diable sait que c'est cela le point le plus important. Lorsque tu arrives à vaincre, le jour où tu arrives dans ton cœur, tu te regardes, tu dis, je n'ai personne dans mon cœur qui est lié. Personne dans mon cœur à qui j'en veux. Ce jour-là, tu commences à régner spirituellement. Tu commences à t'élever à la dimension et au rang de Dieu. Je parlais de l'amour. Oui, il t'a fait du mal, il t'a fait du tort. Tu dis, c'est lui qui a fait du mal. C'est à moi qu'on demande d'aller demander pardon. C'est moi que Dieu tourmente. Mais pourquoi Dieu te tourmente? Parce que Dieu, c'est lui qui t'a fait du mal. Mais toi, cette haine que tu as conçue, t'a aveuglé. Ce n'est pas la haine, c'est simplement la jalousie. La jalousie est simplement une dérivée de la haine. La convoitise. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, nous y arriverons. Combien d'entre nous ont des gens dans leur cœur qui sont bloqués? Et ils prétendent être en communion avec Dieu. Combien du millier de nous n'arrivent pas à pardonner? Combien du millier de nous arrivent même à haïr des gens qui n'ont rien fait du mal? Simplement la méchanceté de notre cœur. Tous les autres arguments, il a dit, il a fait. Et frères et sœurs, regardez. L'amour et la haine est devenue contagieuse. Il y a des gens dans cet auditoire qui haïssent des personnes qu'ils ne connaissent même pas. Simplement parce que quelqu'un est venu t'inculquer la haine. Quelqu'un est venu te parler en mal de cette personne-là. Tu ne le connais pas, tu n'as rien vérifié. mais tu lui as donné des oreilles. La foi vient de ce qu'on entend. Et la haine est née dans ton cœur pour quelqu'un qui ne t'aime pas, qui ne te connaît pas. Tu prends toute ta pauvreté, ta misère, tu le mets sous la tête des autres. Et tu penses que toi tu souffres parce que les autres sont bien. Et cette haine-là, c'est l'œuvre du diable. Le message de Christ, c'est un message d'amour. Le commandement de Christ, c'est un commandement d'amour. Aimez-vous les uns les autres, mais pas n'importe quel amour, comme moi je vous ai aimé. Je reviendrai le dimanche prochain et je verrai qui viendrait prendre la Sainte-Seine le soir. Jésus-Christ dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment est-ce qu'il nous a aimé? Il nous a aimé au point où il a donné sa vie pour nous. Il nous a aimé au point où il a donné sa vie pour nous. Et c'est le commandement qu'il nous donne de nous aimer les uns les autres. Nous cherchons Dieu. Vous voyez, dans le royaume de Babylone ou de Perse, non, c'est cette fois-là en Perse, un homme est monté sur le trône. Et il a eu un mystère dont il avait besoin de la révélation. Et ce conseiller lui dit, oh, sa majesté le roi, du temps de ton père, il y avait un homme qui s'appelait Daniel. Et en lui, on a trouvé des lumières. En Daniel, il y avait des lumières. Ces gens qui donnent les rapports sont des occultistes, sont des magiciens. Et ils parlent des lumières qu'ils ont vues en Daniel, c'est ce qui les intéresse. Mais ils ne cherchent pas la cause de ces lumières. La cause, c'est qu'est-ce qui engendre ces lumières. Je voulais parler de la source de cette lumière. C'était l'amour. C'était l'amour. La capacité d'aimer ceux qui vous font du mal, ceux qui vous détruisent, ceux qui cherchent votre mort, ceux qui vous combattent. Nous avons déjà des problèmes à aimer les gens qui nous ont rien fait. Et maintenant nous devons aimer ceux qui nous combattent, qui nous haïssent. Quand est-ce que nous y arriverons? Pourquoi nous embrouiller dans tous les restes alors que le problème est à côté? Nous faisons juste un vilain jeu. Nous avons comme l'impression de distraire. Mais on ne peut pas distraire Dieu. Parce que le problème est ailleurs. Le problème n'est pas tout ce que nous pensons là. Le problème n'est pas les mensonges. Le problème n'est pas tout le reste là. Le problème c'est l'amour. Quand ton cœur est rempli d'amour, la lumière brille de tes yeux. Et quand la lumière brille, tu n'as aucune occasion de chute. Tu ne trébuches pas. Le diable le sait. C'est pourquoi il veut à tout prix. C'est pourquoi déjà dans l'ancienne alliance, il était écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Déjà dans l'ancienne alliance, il était écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que vient la source de la vie. La victoire que Jésus a eue contre le péché, contre le pécheur, contre le diable, n'est pas une victoire de puissance, n'est pas une victoire de force. Si c'était une question de puissance et de force, il aurait appelé une légion d'anges. Au ciel, la puissance ne manque pas, la force ne manque pas. Mais la victoire que Jésus a remportée était une victoire d'amour. L'a crucifié dans la faiblesse, écrasé de tous, alors qu'il avait lui raison. Nous, quand nous avons seulement un quart de raison, nous nous battons comme une proie à arracher. Mais Jésus avait totalement raison. Mais il s'est dépouillé à la croix. L'amour de la croix. Et je voulais dire la victoire de la croix. C'est l'amour. C'est la victoire de l'amour contre la haine. Et l'amour, c'est la lumière. La haine, c'est les ténèbres. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Vous pouvez évoluer dans les standards de Dieu. En décidant de pardonner. En décidant de vider votre cœur de haine. En décidant de commencer à aimer, que Dieu remplisse votre cœur d'amour et l'amour de Dieu. Ça, c'est la lumière. Ça vous garde en communion avec le Père. Parce que Dieu est amour, Dieu est lumière. L'amour dans le cœur, c'est la lumière. Ça vous garde en communion avec Dieu. Et aucune occasion de chute ne se trouvera sur votre chemin. Ça, c'est ma prière et le vœu de mon cœur. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Et que nous voyons au plus profond de notre être. Que nos cœurs soient labourés. Que nos cœurs soient travaillés. Pour que l'amour jaillisse. Et l'amour véritable. L'amour agapé. Inclinons-nous dans la prière. Inclinons-nous dans la prière. Je crois que ce n'est pas le temps de crier. Lorsqu'il y a changement de sacerdoce, il y a nécessairement aussi changement des lois. Le sacerdoce lévitique a été déclaré caduque parce que le Seigneur l'a accompli. Et il a mis de côté l'ancienne alliance. Il a inauguré la nouvelle alliance avec un nouveau sacerdoce, avec une nouvelle loi, la loi de l'amour. Où en sommes-nous avec l'amour? Sonde ton cœur. Sonde ton cœur par rapport à la famille. Et ça ne va pas s'arrêter maintenant. Demain, en allant au service, quelqu'un d'autre va appuyer un autre bouton pour activer la haine dans ton cœur. Quelqu'un d'autre va activer un autre bouton pour activer la haine dans ton cœur. Quelle sera ta réponse? Quelle sera ta réponse, je demande. Humilions-nous. Il y a des gens qui doivent retourner à Dieu dans la communion du Père qu'ils ont perdu. Il y a des gens qui doivent retourner dans l'amour, dans la lumière. Oh, la lumière, c'est l'amour et l'amour véritable. Prions le Seigneur. Tu trouves que tu dois demander pardon, faites-le. Tu trouves que tu as besoin de qui est ton âme, faites-le. Tu dois décider. C'est cela Dieu. C'est cela la nouvelle alliance. C'est le cœur. Tout le reste, c'était l'ancienne alliance, les apparences. Mais le cœur, c'est la nouvelle alliance. Et le cœur, c'est le siège de l'amour ou de la haine. Prions le Seigneur tous ensemble. Probablement, c'est l'un des messages les plus importants que je n'ai jamais prêché. Je n'exagère pas en disant le plus important. J'ai dit c'est l'un des plus importants. Ta destinée en dépend. Aussi longtemps que tu es dans ce système, tu es dans cette vie. Veux-tu marcher dans les ténèbres ou dans la lumière? Si tu choisis la lumière, c'est l'amour. C'est la communion du Père. Tenons-nous debout tous ensemble. Tenons-nous debout tous ensemble, élevons nos mains. Tenons-nous debout, élevons nos mains. Je déclare tout blocage, toute maladie, tout dysfonctionnement, et toute difficulté liée à l'aveuglement causé par la haine, d'une manière ou d'une autre. Tous les péchés liés dans l'aveuglement puissent tomber. Puissent tomber. La bonne nouvelle, dit Jean, c'est que les ténèbres se dissipent. Et la lumière véritable apparaît. Cela veut dire quoi? C'est que nous vidons nos cœurs de haine, nous pardonnons, nous libérons les gens. C'est ça, les ténèbres se dissipent. Et la lumière véritable apparaît. Dites après moi, les yeux fermés, toute l'église. Dieu notre Père. Je n'entends pas. Dieu notre Père. J'ai entendu le message sur le sacerdoce de la nouvelle alliance. À chaque sacerdoce, une loi. Et j'ai entendu aujourd'hui qu'une seule loi m'a été donnée. Un seul commandement m'a été donné. C'est l'amour. J'ouvre mon cœur pour que tu me pardonnes. Toutes les fois que je conçois la haine, que tu me purifies, que tu me nettoies. Père, j'ouvre mon cœur pour que tu me baptises dans ton amour. Je veux que mon cœur soit rempli d'amour. cet amour qui n'est pas de la nature humaine. Et qu'étant dans l'amour, je marche dans la lumière pour être en communion avec toi. Merci de m'affranchir par la vérité de ta parole. Je ne serai plus jamais la même personne. Je ferai des progrès évidents. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Mets ton nom, s'il vous plaît. Qui a été béni aujourd'hui? Dis ton voisin, regarde-moi bien. Je prends la décision de m'appliquer à aimer. Au nom de Jésus, je l'assurerai. Musique. Protocole, aidez-nous à sortir en ordre. Merci les amis. Protocole, aidez-nous à sortir en ordre. Que Dieu vous bénisse. Mardi, 17h juste. Nous avons rendez-vous de vie. Et vendredi, 17h juste.
C'était là le message du révérend Espérance Mbakadi, pasteur principal de l'église de Mangembo à Kinshasa, en République démocratique du Congo.